Bonjour Isabelle Hudon.
Bonjour.
La présidence canadienne du G7 va prendre fin dans quelques jours. C'est la France qui va prendre le relais. Mm-hmm. Quels sont vos motifs de satisfaction et vos regrets à l'issue de cette année de présidence?
Je peux pas vous dire que j'ai beaucoup de regrets, mais grande satisfaction d'avoir mettre à l'ordre du jour du G7 2018 la question de l'égalité femmes-hommes ou l'égalité des genres. C'est pas un forum typique où ce sujet est à l'ordre du jour. On le sait très bien, le G7, on parle d'économie, on parle de sécurité, on parle d'environnement, mais d'avoir été en mesure pour le Canada de pousser cet enjeu de façon transversale tout au long de l'année du G7 canadien, c'est une grande réussite. Et d'ailleurs, vous l'avez suivi, ce G7, ça a été un G7 un peu en turbulence. Ce forum se réinvente un peu avec les pays qui arrivent probablement un peu moins bien alignés au début
avec l'arrivée aussi de dirigeants peut-être qui bousculent un petit peu l'ordre établi.
Effectivement, et même si on voit que ça se bouscule et que l'environnement change, je suis d'avis et le Canada est d'avis que ce forum est nécessaire. Donc, grand gain d'avoir mis à l'agenda du G7 2018 la question de l'égalité des genres. Pas beaucoup de regrets, sauf qu'un constat qu'après une deuxième année, vous vous souvenez qu'en 2017, on avait appelé le G7 le G6+1. Cette année, les sept pays étaient là, mais ça nous a confirmé que l'environnement est en mouvance.
Alors, c'est la France qui va prendre le relais, qui va présider le G7 pour les 12 prochains mois. Oui. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a prononcé le discours hier au sommet de Biarritz en l'absence d'Emmanuel Macron, qui est retenu par une actualité sociale qui ne vous a sans doute pas échappé. La lutte contre les inégalités et une coordination plus étroite avec les puissances de bonne volonté non membres du G7 seront au cœur de la présidence française en 2019, a dit Jean-Yves Le Drian. Et la France va proposer, pour rejoindre ce dont vous parliez, une norme ISO, alors c'est une norme internationale, une espèce de cahier des charges à respecter, pour les entreprises qui précisément respectent l'égalité homme-femme. Ça, c'est un sujet qui vous tient très à cœur.
C'est un sujet qui me tient personnellement à cœur, mais qui tient à cœur du Canada. Et on a déployé depuis plusieurs années beaucoup de ces mesures au Canada. Et je vous confirme que ces mesures en entreprise pour l'égalité femmes-hommes donnent des résultats, particulièrement avec l'obligation de divulgation et l'obligation de transparence.
Oui, alors en France, on dit souvent le name and shame. Vous dites obligation de divulgation. C'est ça, en fait,
dont on parle. Tout à fait.
Faites mieux que nous, on le sait, dans ce domaine, en français.
C'est mon premier constat après 12 mois en sol français. Donc, on vous permet d'utiliser beaucoup plus d'anglicisme lorsque vous parlez français versus au Canada. C'est un clin d'œil que je vous fais, mais revenons sur la question des gains du G7 cette année. Un gain, et c'est pas parce que nous on l'a calculé, mais un gain, c'est que ce soit la France qui succède au Canada dans la présidence. Premièrement, nos deux pays sont bien alignés sur les grandes valeurs, sur les principes de droit, et on voit une nette continuité sur les thèmes. Le ministre Le Drian l'a annoncé, et même le président en a parlé, que la question des inégalités économiques, climatiques seront au rendez-vous, et également les inégalités numériques. Quand on regarde les thèmes qu'on a choisis au Canada et qu'on a débattus dans la dernière année pour le G7, il y a une continuité entre les deux années, et je m'en réjouis, et particulièrement sur la question de l'égalité des genres.
Alors, il y a un autre thème. La France et le Canada ont annoncé il y a quelques jours, à l'occasion d'une conférence du G7, la création du groupe international d'experts pour l'intelligence artificielle, chargé d'étudier les impacts de l'intelligence artificielle sur l'économie et la société, qui devrait voir le jour ce groupe-là au courant de l'année 2019. Il va fonctionner un peu sur le modèle du GIEC, qui est le groupe d'experts sur le climat. Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
On peut en attendre un suivi extrêmement rigoureux entourant l'éthique de l'intelligence artificielle. Mmh. Les deux pays, la France et le Canada, ont vite réalisé que cette révolution était rapide entourant l'intégration de l'intelligence artificielle dans toutes les sphères de la société. Et pas nécessairement une crainte, mais la volonté de voir ce mouvement être scellé et signé d'un côté important de l'éthique. Alors, les deux pays, la France et le Canada, se sont alliés pour amener chercheurs ensemble et discuter de la question éthique de l'intelligence artificielle. Je pense également que ce duo Canada-France pourra peut-être inviter d'autres pays à se joindre à une réflexion importante entourant le déploiement pas de cette technologie, mais le déploiement de ce mouvement dans les sphères de notre société.
Une étude d'impact sur la première année d'application du CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, doit être remise dans les prochains jours au service du Premier ministre. Le CETA est un sujet qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, même d'hostilité, assez franche, dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Il y a quelques semaines, c'était en septembre, pour la première année d'application, la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-fondation Nicolas Hulot, a dressé un premier bilan pas très rassurant. Quelques exemples, les pesticides, le Canada dit ce document de la Fondation pour la Nature et l'Homme autorise 42 molécules interdites dans l'Union européenne. Le saumon génétiquement modifié, par exemple, est autorisé au Canada, mais interdit en Europe, et il n'y aurait pas de contrôle pour le repérer. Du colza OGM, pareil, sans que ce soit indiqué sur les étiquettes, alors qu'en principe, la mention contient des OGM est obligatoire. Est-ce que le CETA, finalement, pourrait être un bon accord commercial, mais un mauvais accord pour la santé et l'environnement?
Bon, premièrement, moi, je vous dis que cet accord est un bon accord et trois points que je veux faire. Vous parlez d'une étude commandée par le gouvernement. Il est vrai que le gouvernement a demandé une étude de retombées et d'impact en vue de la ratification qu'on prévoit en 2019. Vous savez que chacun des parlements doit passer à la ratification.
9 l'ont fait pour l'instant en Europe.
Et 13.
13. Alors, le document que je disais doit dater d'il y a quelques semaines, mais en effet...
Donc, il y a 13 pays qui ont ratifié. Moi, j'aurais bien aimé voir la France dans le top 10, mais...
Le contexte n'est pas très favorable.
Il reste le top 15. Ouais. Alors, donc cette étude nous reviendra avec des impacts chiffrés, mais laissez-moi partager avec vous certains chiffres après une première année de mise en vigueur. Donc, il y a eu une croissance des échanges commerciaux pour la France vers le Canada de 10% et particulièrement dans le secteur agroalimentaire. Le secteur, je vous pointe ce secteur-là parce que il y a eu deux zones de crainte. Et il y a deux zones de crainte. Le secteur agroalimentaire et le secteur environnemental. Alors, sur le secteur agroalimentaire, c'était la filière bovine qui craignait le pire de voir la France être envahie par les produits bovins canadiens, ce qui n'est pas le cas du tout. Au niveau de l'environnement, il est vrai que rien n'est parfait. Par contre, cet accord couvre beaucoup, toutes les promesses sur l'accord de Paris. Et nous veillons à corriger...
Il nous reste très peu de temps, ma question, c'est est-ce qu'on peut resserrer un peu les mailles du filet, peut-être?
Je vais vous dire en terminant que le CETA n'enraye en rien les règles que chaque pays ont sur leur territoire. Donc, il y avait, par exemple, interdiction de bœuf aux hormones. Avant le CETA en France, cette règle demeure, le CETA n'en change rien.
Merci Isabelle Hudon.
Merci.
Bonne journée.